C'est une source en eau, en plaisir, et si vous voulez, la problématique scolaire problématique, et on est des orientations en hein, et la sécurité, les différentes stratégies à l'autre. Voilà. Je vais rapidement parler des ressources en eau. Vous pouvez voir les principaux facteurs qui agissent sur les ressources, la problématique de l'eau, la politique adoptée est une principale réalisation et je terminerai par présenter les résultats et les conclusions. Alors, notre potentiel hydrique, hydrique potentiel, donc c'est à peu près 4,8 milliards de mètres cubes, dont 4,6 milliards qu'on peut exploiter. Exploiter le valeur hydrique potentiel. Donc, Le premier problème, c'est l'inégalité à travers les régions. Nous avons par exemple le Nord, là où la pluviométrie donc, est plus abondante, nous avons à peu près 2,8 milliards de mètres cubes. Le centre et le sud sont, comme vous voyez, sont moins dotés donc en matière de ressources. Et bref, les principales caractéristiques de nos ressources sont influencées par le climat, c'est le climat semi-aride au nord et aride au centre et au sud. Donc les eaux de surface dépendent de l'origine des mouvements visuels. Les eaux souterraines sont non ou peu renouvelables. La salinité des eaux est très hétérogène, on a parlé du nord au sud, et les eaux de bonne qualité se situent au nord. Et vous savez qu'on est appelé à distribuer l'eau sur l'ensemble du territoire. Aussi, il y a le facteur, si vous voulez, ici c'est un cas complet de ce qui a été dit le matin par le professeur Paul Moulin, donc des facteurs qui expliquent, si vous voulez, la problématique des ressources en eau, c'est un facteur climatique et démographique. Alors, pour la démographie, notre population donc, était de 4,5 millions en 1966. Elle est actuellement autour de 10 millions. Elle passait à 13 millions en 2020. La population communale, qui était de 40% de la population, elle est actuellement actuellement à plus de 65%, elle serait de 70% en 2020. Bien sûr, la croissance de la population et du niveau de vie vont influencer donc la consommation en eau potable. Conclusion très importante de ces chiffres, c'est que les quantités d'eau par habitant, par rapport au potentiel qui existe, ils vont diminuer, ils sont maintenant autour de 420 mètres cubes par habitant, ils vont diminuer jusqu'à 320 mètres cubes par an en 2030. Donc, si les normes considèrent dans les pays en étant exposés à stress hydrique, à partir de 1000 mètres cubes, nous aurons le tiers, à peu près ici, en 2030. Alors, vous voyez le climat, comme je vous l'ai dit, donc le nord, qui représente 25% de la superficie, reçoit entre 400 et 1500 mm. Le sud, qui représente, donc le sud et le centre, qui représentent à peu près 75%, donc reçoivent entre 200 et 400 mm. Aussi, il y a les facteurs de réchauffement climatique, donc qui constituent un handicap pour les ressources en eau, puisqu'ils augmentent la sécheresse et les inondations. La répartition de la demande, on a 83% à peu près de nos ressources vont pour l'agriculture, et 17% sont divisés entre l'industrie, le tourisme et l'usage résidentiel. La projection de la demande, alors par secteur, nous voyons ici qu'une demande donc, évaluée en 1996 à 2,5 milliards de mètres cubes passait à 2,7 milliards de mètres cubes. Le mal ici que l'agriculture, par exemple, la demande va diminuer ici en 2030. Bien sûr, la projection tient compte des programmes d'économie d'eau appliqués dans le secteur agricole. demande va croître, la demande aussi bien pour potable, de l'eau potable, donc aussi bien pour le secteur résidentiel que pour les autres activités, l'industrie et le tourisme. Et d'un autre côté, l'offre est très limitée. On n'a pas de ressources, on n'est pas doté comme vient d'écrire mon collègue, comme en Angola, on a beaucoup de ressources, on a malheureusement pas beaucoup de ressources. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut aller chercher du côté de la demande. Et c'est pour cela que toute une politique a été mise en œuvre pour une gestion efficace de la demande. Alors, les principales orientations, alors, il faut d'abord continuer à mobiliser dans des forces de mobilisation, ce qu'a rappelé M. Lalanne le matin. Donc, il faut développer la structure hydraulique, et dans ce sens, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Il faut mettre un programme donc, de maîtrise de la demande, de gestion de la demande. Et le troisième point, c'est développer donc des ressources non conventionnelles, c'est-à-dire le dessalement des eaux somnages, le dessalement des eaux minières et la réutilisation des eaux usées. Et là aussi, il y a un champ de travail pour le pouvoir. Alors, ici, un petit aperçu donc, sur le concept de l'économie de l'eau. Donc, l'économie de l'eau, notre vision de l'économie de l'eau, c'est de réduire les écarts entre les besoins standards et ce qui est consommé. Un petit exemple, par exemple, le volume a eu besoin d'un petit verre d'eau, donc il a consommé toute une bouteille. C'est du gaspillage. Donc, il faut réduire les pertes, il faut réduire les pertes sur les réseaux de distribution et agir sur le comportement des utilisateurs. Les programmes, alors, il y a trois programmes qui sont focalisés d'abord sur la mobilisation. Un premier programme qui s'est vendu entre 90 et 2000. Donc, c'est un programme qui a été mené pour construire les grands barrages, les lacs collinaires, développer la petite hydraulique. Donc tout ça a commencé, il a été complété, relayé par un autre programme complémentaire d'interconnexion des barrages pour voir les surplus en cas d'abondance, les surplus donc ne vont pas à la mer, ils sont revenus dans d'autres barrages. Et le programme à long terme concerne donc l'effort à faire au niveau de la demande. Et tout ça pour, si vous voulez, pour préserver un équilibre durable. Alors, qu'est-ce qui est les principales réalisations, c'est les grands barrages. En 2008, maintenant on dispose de 29 grands barrages, 223 barrages collinaires, à peu près 800 lacs collinaires et des forages entre profonds et des puits sur place. Le pourcentage de mobilisation actuel est de 88%. Il atteindra les 95% donc, lorsque les programmes seront terminés, programmes de construction, vous voyez, encore une vingtaine de barrages et d'autres barrages collinaires. D'ici 2015. Alors, l'autre volet donc, qui concerne la demande, donc, a vu donc, une action très importante et a accompagné donc, cet effort de mobilisation et de gestion de la demande. Il s'agit donc de revoir la législation de l'eau. Et c'est dans ce cadre qu'on a procédé à la révision du code des eaux pour introduire, si vous voulez, six nouveaux concepts, le concept de l'économie de l'eau. Pour nous, en Tunisie, le code des eaux, il constitue, si vous voulez, la constitution relative au secteur de l'eau. Donc, on a essayé de reprendre les principes de base, d'introduire des nouveaux concepts d'économie de l'eau, d'utilisation de la réutilisation des eaux usées, du dessalement, pour introduire dans la législation ces nouveaux concepts. Voilà, donc, comme vous voyez, donc, il s'agit de définir le concept de l'économie d'eau. Il y a eu un premier amendement, donc, une nouvelle loi, donc, qui a permis d'avoir deux aspects. Un aspect, donc, général, et qui incite à l'économie d'eau, et un aspect très important, c'est un aspect spécifique qui va directement au consommateur de l'eau. Et qui s'est traduit par l'obligation des gros consommateurs actuellement en Tunisie, les gros consommateurs d'eau sont obligés de faire une expertise sur les systèmes internes d'eau une fois tous les 5 ans. Celui qui ne fait pas, bien sûr, il est pénalisé. Et celui qui fait l'audit, il est subventionné pour faire les réparations nécessaires. Et ces réparations doivent être en. Il y a des réparations immédiates. Il y a, si vous voulez, l'introduction, dans le cadre, même si c'est possible, de la réutilisation des eaux, comme dans l'industrie, pour le fournissement, etc. Et de la réutilisation des eaux aussi pour les touristiques, les eaux piscines, etc., moyennant un traitement spécifique. Donc, ils sont encouragés par des subventions. Bon, je ne vais pas trop m'attarder donc, sur l'aspect général qui incite à l'économie d'eau. Donc, c'est des articles donc, qui visent la création de périmètres de télévision, la planification d'utilisation des ressources en eau en se référant à la notion de valorisation maximale de la production. Et le principe article, c'est très important parce qu'on a vient de parler ici un peu de la tarification. La tarification en cuisine, elle s'inspire de ce principe, soumettre la consommation dépassant les besoins à un tarif progressif. Alors, notre tarif de l'eau, il est formé donc, de 5 tranches de consommation. 5 tranches de consommation. Les premières tranches, les prix sont en deçà des prix de moyenne. Et les tranches supérieures donc, compensent le manque à gagner donc, des premières tranches. Des premières tranches, on a à peu près 60% de la population qui consomme à peu près entre 0 et 40 mètres cubes par trimestre. Et donc, ils ont accès à l'eau à un prix qui est inférieur au prix de moyenne. Ils sont compensés, donc pour nous en tant que société, c'est, nous ne sommes pas appelés à faire des bénéfices. Mais même si on fait des bénéfices, on doit les réinvestir. Donc nous sommes appelés à équilibrer notre compte. Et donc, cette tarification, ce système fonctionne depuis 40 ans. Hein. Donc on n'a pas eu de problème. Donc, si vous voulez, c'est un exemple. Aussi, donc, il y a l'article 106, un nouveau article qui parle de la réutilisation des eaux. Bien sûr, ces principes-là ont été repris dans des lois et des décrets, donc qui aidaient, si vous voulez, ces principes-là. Alors, les principes spécifiques des dispositions publiques, il y a le principe d'utilité publique, c'est pour la première fois que l'eau est considérée comme richesse nationale, avec tout ce qui dépend. Donc, richesse nationale, donc chacun, donc, après bien, il y a deux conséquences immédiates, c'est que la possibilité donc, de punir toute action qui gaspille l'eau, donc, qui est une ignore la considération de l'eau comme richesse nationale, et selon nous, c'est l'impossibilité de toute objection contre au travail. Voilà, au projet donc, de développer des ressources en eau. Et il y a des articles donc, aussi qui parlent du développement des ressources par le recours aux ressources non conventionnelles. L'article nouveau, comme je vous ai dit, c'est que les gros consommateurs ils sont très porteurs, ils sont appelés donc, à faire des diagnostics de leur système d'eau. Et cette action a commencé et donne des résultats excellents, surtout dans le secteur public, où l'eau est gaspillée avec abondance, si vous voulez, dans les hôpitaux, les universités, toutes les infrastructures, si vous voulez, côtoyées par le public. Alors là, le gaspillage qui était là. Et avec ces actions, ces audits-là, il y a eu une réduction allant jusqu'à 40 voire 50% de la consommation d'eau. Aussi bien pour le secteur privé comme pour les industriels et les entités touristiques, donc les audits commencent à donner beaucoup de résultats pour vous. Voilà, les encouragements financiers sont de deux sortes. On octroie une prime équivalent de 2500 dinars sur 1400 euros pour financer, si vous voulez, l'étude, parce que le diagnostic repose sur deux composantes importantes, l'étude, puis les investissements à réaliser. Et sur les investissements qui sont recommandés par l'étude, on donne à peu près 15 000 dinars, soit l'équivalent de 8 300 euros pour faire des réparations et pour introduire, s'il y a lieu, donc des ressources non conventionnelles. Aussi, il y a un effort énorme de sensibilisation du public. Donc, à travers les étudiants, à travers les rencontres directes, à travers les journaux, les mass médias, donc, une chose qui peut aider donc, à la sensibilisation et si vous voulez, utiliser. Donc, résultat et conclusion. On atteindra d'ici 2015 une mobilisation presque totale de nos ressources civiles. Nous sommes en train de recourir de plus en plus aux ressources non conventionnelles. Nous avons maintenant 5 stations de desservement des eaux sauvages. Une autre station est en cours, elle a commencé en 2009, une station de desservement des eaux de mer, à l'île de Gerbe, que je vous conseille d'aller voir. Donc, ceci concerne donc le salon des sommets. Une nouvelle approche pour assurer l'émission de monde, l'objet de l'expertise des systèmes internes d'eau et l'effort de sensibilisation que nous pensons que ça aidera à, si vous voulez, différer l'échéance du déséquilibre entre l'offre et demande. Je vous rappelle rapidement que la Tunisie a su toujours s'adapter donc, à son contexte. L'ère punique a été donc caractérisée par la construction des châteaux d'eau. L'ère romaine est caractérisée par les aqueducs, c'est les mêmes aqueducs qui existent en Italie, qui transportent l'eau sur plus de 100 km. Et l'ère arabo-musulmane qui a été donc aussi caractérisé par la construction de grands réservoirs et de bassins des Égabites à Téhéran, c'est une ville tunisienne connue aussi. Et le développement, si vous voulez, de la petite hydraulique. La petite hydraulique, donc, c'est la collecte des eaux pluviales dans des maisons, donc, dans des citernes. J'espère que vous avez